petite femme aimée au parfum de verveine.
Il y avait là, certes, une injure à leur misère. Il y avait là une raison de commettre un crime pour Hildesheim et Bobby Moss. Mais le triple soleil des lampes, le regard furieux de Cavendish le barman, la nuit méchante guettant aux vitres et l'or tiède du whisky les avaient rendus lâches. Et lâches, ils souriaient à la bande de fêtards en smoking et en chemise de soie neigeuse. C'étaient de petits hommes blêmes, au visage bouilli, qui sentaient les parfums de France et la carie dentaire. Les femmes qui les accompagnaient étaient très belles. La blanche splendeur de leurs épaules et de leurs bras sortait de l'ombre voluptueuse de fourrures insolemment riches. Des bijoux s'allumaient dans chaque creux de leur chair, et les écœurants amis avaient des portefeuilles lourds qui ressemblaient à de petits volumes épais reliés en cuir de Venise ou en lézard gris. Mais depuis 8 jours, Cavendish versait du whisky à crédit aux 2 mauvais garçons et son empire sur eux était grand. Hildesheim s'était battu du côté de Dawson avec des chiens labradors retournés à l'état sauvage. Il a trituré leur crâne de fer comme une glaise sanglante entre ses mains. Bobby Moss se vante d'avoir à lui seul eu raison d'une révolte de noirs quelque part dans la brousse du Tchad. Et Bobby Moss, par tous les whiskies d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, n'est pas un menteur. Eh bien, ils ont ri comme de bons gosses quand un de ces messieurs leur a jeté des allumettes enflammées dans les cheveux. La tignasse de Hildesheim, qui est grasse, a envoyé un long jet de fumée puante au plafond. Et tout le monde s'est tordu quand une ampoule nacrée s'est levée sur le menton de Bobby. Mais Hildesheim et Bobby Moss eux-mêmes ont ri aux larmes. Leur joie était profonde. Mais ceux qui connaissaient leur regard savaient qu'ils étaient partis loin du bar, quelque part dans la nuit hantée du port, que leur rire échappait à l'heure présente pour cheminer au long d'une dimension encore inconnue vers l'avenir. Et cet avenir plein de joie royale pour Hildesheim et Bobby Moss se lèverait quelques heures plus tard, quand les volets auraient clos leurs paupières de bois sur les roses fenêtres du bar du site enchanteur. Quand la lune roulerait rouge et lasse au fil des vergues noires et des cordages tendus comme d'immenses chaluts dans le ciel sombre pour une formidable pêche aux fantômes et aux cauchemars. Ah, i-a, ah, tim, ah, ah. Le jazz band jouait des airs meurtriers. Le whisky qu'on avalait à longue gorgée sans lésiner car la bande payait avait un goût de cuivre ou de sang. Les aiguilles du cartel marchaient ironiquement, avec des mouvements sûrs de faucheuses vers l'heure de la fermeture. Bobby Moss avait essayé le fil de son couteau sur son ongle et Hildesheim chantait. Hildesheim chantait. C'était un hurlement qui ne parvenait pas à lui sortir du gosier. Une sorte de rauquement sauvage, une rumeur inouïe d'ouragan lointain, l'écho de la tempête de son cœur. « Mesdames, messieurs, » dit Cavendish, « je regrette, mais c'est l'heure où je dois fermer mon établissement. » Le jazz band se tut. Le carillon du cartel lança le lamento des cloches de Westminster. Un silence terrible plana. « Ah !» fit Hildesheim. Ah ! Fit Bobby Moss. Alors la bande sentit la mort. Du groupe effrayé, soudainement dégrisé, une femme sortit. Son corps souple se drapait dans un ample manteau de taupe aux reflets d'or et de vieil ivoire. Ses yeux avaient une étonnante couleur mauve pailletée de lune. Elle prit la main grasse de Cavendish. « Monsieur, supplia-t-elle, une minute encore. »« C'est l'heure, dit Cavendish. La police est sévère. »
« Je suis Dolin Hutchinson, » dit-elle, « de Covent Garden, et je voudrais chanter pour ces messieurs. »«
Dolly !» cria un des hideux mannequins. « Je vous défends !»«
Vous n'avez rien à me défendre, Mr. Stapleby, et encore moins à m'appeler Dolly. »
Ah, ce qu'elle était belle, cette femme de riche!
Et sans plus attendre, elle chanta. C'était le chant où Butterfly pleure toute sa détresse de délaissée. Petite femme aimée au parfum de verveine. Et des grands et longs yeux mauves, des larmes coulèrent.
Quand la porte se fut fermée derrière la bande, Bobby Moss se leva.
« Reste, » dit Hildesheim.
« Bien, »
répondit Bobby sans s'étonner.
Cavendish mit les volets et ferma la porte, mais il ne leur ordonna pas de partir. Au contraire, il remplit à nouveau leur verre d'un whisky fameux, blond, plein de flammes et de rêves. Le groupe de noceurs était sauvé. Pourquoi ? La magie de la musique ? De cette voix et des yeux mauves, me dites-vous ? Moi qui vous ai raconté l'histoire, je vous dis que non. Nous ne sommes pas gens à nous émouvoir de ces jolies sentimentalités. Si l'artiste avait chanté Werther, Lohengrin ou toute autre chose, le conte de cette troupe d'imbéciles fourvoyés par une audace folle dans ce bouge de marin était bon. Mais elle a chanté Butterfly, et cela lui fut inspiré et ordonné par Dieu. Et je m'explique la mansuétude soudaine des deux forbans insultés dans leur misère par le luxe et par la joie des autres. Le souvenir d'une geisha en larmes devenue tout à coup petite, petite. Petite sur le débarcadère rouillé, alors que le steamer fuyait en hâte hors de la rade enchantée. Est-il venu au secours de l'évocatrice à cette heure rouge si proche du crime? Ou sont-elles accourues, toutes nos douloureuses amies des ports? L'Espagnol de Las Palmas, qui nous demandait des prières pour son amant, un pêcheur de Madère, parce que l'Atlantique hurlait comme une louve. La bonne fille de Marseille, qui après les instants brûlants de l'amour voulait nous rendre notre ardeur par une ravissante bouillabaisse épicée comme un feu. La girl de Southampton, qui croyait que nous rapportions d'Orient des remèdes magiques ayant pouvoir de guérir un mal cultivé par 5 générations d'années et que nous avons payé, la pauvre, en formules grotesques et en brins d'algues séchées. La Hollandaise au sein lourd, qui se vengea à coups de sabot de notre parcimonie d'errants miséreux. La blonde femme de Bergen, dont le regard d'ange ignorait toutes les erreurs de son corps. La juive d'Hambourg, qui marmottait une longue prière en une chienne de langue hébraïque en s'abandonnant à nos frustes désirs. L'étrange belle Donfleur, qui exigea la nuit complète autour de ses baisers. L'étaïr du Caire qui parfuma nos corps de benjoin. La créole du Rio qui rythma les minutes d'oubli d'une singulière chanson des Pampas. La pauvrette d'Iquique qui ne nous en voulut pas d'imprégner sa miséreuse couche des fauves odeurs des nitrates et du guano. L'adorable insulaire de Papété qui ne voulait pas d'argent mais des chansons nouvelles de France et d'Angleterre. Toutes, entendez-vous, toutes sont accourues sur la route mystérieuse du souvenir pour sauver l'évocatrice de leur éternelle misère de femmes abandonnées. Et ferme comme en Dieu, je crois à leurs gestes fantomales d'amoureuses protégeant la belle jeune femme aux yeux mauves qui chanta si merveilleusement l'immense pitié des filles de port un soir au bar du site enchanteur.